Chapitre 8. Êtes-vous bien certaine, madame, de l'existence de ces prétendues lettres écrites par mademoiselle Clotilde de Grandlieu à ce jeune homme ? Dit le duc de Grandlieu. Et il jeta sur madame Camusot un regard comme un marin jette la sonde.
Je ne les ai pas vues, mais c'est à craindre, répondit-elle en tremblant.
Ma fille n'a rien pu écrire qui ne soit avouable, s'écria la duchesse.
Pauvre duchesse, pensa Diane en jetant un regard au duc de Grandlieu qui le fit trembler.
Que crois-tu, ma chère petite Diane ?
Dit le duc à l'oreille de la duchesse de Maufrigneuse en l'emmenant dans l'embrasure d'une fenêtre.
Clotilde est si folle de Lucien, mon cher, qu'elle lui avait donné rendez-vous avant son départ. Sans la petite Lenoncourt, elle se serait peut-être enfuie avec lui dans la forêt de Fontainebleau. Je sais que Lucien écrivait à Clotilde des lettres à faire partir la tête d'une sainte. Nous sommes trois filles d'Ève, enveloppées par le serpent de la correspondance.
Le duc et Diane revinrent de l'embrasure vers la duchesse et madame Camusot, qui causaient à voix basse. Amélie, qui suivait en ceci les avis de la duchesse de Maufrigneuse, se posait en dévote pour gagner le cœur de la fière portugaise.
Nous sommes à la merci d'un ignoble forçat évadé, dit le duc en faisant un certain mouvement d'épaule. Voilà ce que c'est que de recevoir chez soi des gens de qui l'on n'est pas parfaitement sûr. On doit, avant d'admettre quelqu'un, bien connaître sa fortune, ses parents, tous ses antécédents. Cette phrase est la morale de cette histoire au point de vue aristocratique.
C'est fait, dit la duchesse de Maufrigneuse. Pensons à sauver la pauvre madame de Sérisy, Clotilde et moi.
Nous ne pouvons qu'attendre Henri, je l'ai fait demander. Mais tout dépend du personnage que Gentil est allé chercher. Dieu veuille que cet homme soit à Paris.
Madame, dit-il en s'adressant à madame Camusot, je vous remercie d'avoir pensé à nous.
C'était le congé de madame Camusot. La fille de l'huissier du cabinet avait assez d'esprit pour comprendre le duc, elle se leva. Mais la duchesse de Maufrigneuse, avec cette adorable grâce qui lui conquérait tant de discrétions et d'amitié, prit Amélie par la main et la montra d'une certaine manière au duc et à la duchesse.
Pour mon propre compte, et comme si elle ne s'était pas levée dès l'aurore pour nous sauver tous, je vous demande plus d'un souvenir pour ma petite madame Camusot. D'abord, elle m'a déjà rendu de ses services qu'on n'oublie point. Puis elle nous est tout acquise, elle et son mari. J'ai promis de faire avancer son Camusot, et je vous prie de le protéger avant tout pour l'amour de moi.
Vous n'avez pas besoin de cette recommandation, dit le duc à madame Camusot. Les Grandlieu se souviennent toujours des services qu'on leur a rendus. Les gens du roi vont dans quelque temps avoir l'occasion de se distinguer. On leur demandera du dévouement. Votre mari sera mis sous la brèche. Madame Camusot se retira, fière, heureuse, gonflée à étouffer. Elle revint chez elle, triomphante. Elle s'admirait, elle se moquait de l'inimitié du procureur général. Elle se disait « Si nous faisions sauter Monsieur de Granville !» Il était temps que madame Camusot se retirât. Le duc de Chaulieu, l'un des favoris du roi, se rencontra sur le perron avec cette bourgeoise.
« Henri !» s'écria le duc de Chaulieu quand il entendit annoncer son ami. « Cours, je t'en prie, au château, tâche de parler au roi, voilà de quoi il s'agit !»
Et il emmena le duc dans l'embrasure de la fenêtre où il s'était entretenu déjà avec la légère et gracieuse Diane. De temps en temps, le duc de Chaulieu regardait à la dérobée la folle duchesse qui, tout en causant avec la duchesse pieuse et se laissant sermonner, répondait aux œillades du duc de Chaulieu.
« Cher enfant, dit enfin le duc de Chaulieu dont l'aparté se termina, soyez donc sage. »
« Voyons, ajouta-t-il en prenant les mains de Diane, gardez donc les convenances, ne vous compromettez plus, n'écrivez jamais. Les lettres, ma chère, ont causé tout autant de malheurs particuliers que de malheurs publics. Ce qui serait pardonnable à une jeune fille comme Clotilde, aimant pour la première fois et sans excuse chez… »«
Un vieux grenadier qui a vu le feu, » dit la duchesse en faisant la moue au duc.
Ce mouvement de physionomie et la plaisanterie amenèrent le sourire sur les visages désolés des deux ducs et de la pieuse duchesse elle-même.
Voilà 4 ans que je n'ai écrit de billets doux. Sommes-nous sauvés ?
Demanda Diane, qui cachait ses anxiétés sous ses enfantillages.
Pas encore, dit le duc de Chaulieu, car vous ne savez pas combien les actes arbitraires sont difficiles à commettre. C'est pour un roi constitutionnel comme une infidélité pour une femme mariée. C'est son adultère.
Son péché mignon, dit le duc de Grandlieu.
Le fruit défendu, reprit Diane en souriant. Oh, comme je voudrais être gouvernement, car je n'en ai plus, moi, de ce fruit. J'ai tout mangé.
Oh, cher, cher, dit la pieuse duchesse, vous allez trop loin.
Les deux ducs, en entendant une voiture s'arrêter au perron avec le fracas que font les chevaux lancés au galop, laissèrent les deux femmes ensemble après les avoir saluées et allèrent dans le cabinet du duc de Grandlieu où l'on introduisit l'habitant de la rue Honoré-Chevalier qui n'était autre que le chef de la contre-police du château, de la police politique, l'obscur et puissant Corentin.
« Passez, dit le duc de Grandlieu, passez, monsieur de Saint-Denis. »
Corentin, surpris de trouver tant de mémoire au duc, passa le premier, après avoir salué profondément les deux ducs.
« C'est toujours pour le même personnage ou à cause de lui, mon cher monsieur, dit le duc de Grandlieu.
« Mais il est mort, dit Corentin.
« Il reste un compagnon, fit observer le duc de Chaulieu, un rude compagnon.
« Le forçat Jacques Collin, répliqua Corentin.
Parle, Ferdinand, dit le duc de Grandlieu en l'ancien ambassadeur.
Ce misérable est à craindre, reprit le duc de Chaulieu, car il s'est emparé pour pouvoir en faire une rançon des lettres que mesdames de Sérisy et de Maufrigneuse ont écrites à ce Lucien Chardon, sa créature. Il paraît que c'était un système chez ce jeune homme d'arracher des lettres passionnées en échange des siennes. Car mademoiselle de Grandlieu en a écrit, dit-on, quelques-unes. On le craint, du moins, et nous ne pouvons rien savoir, elle est en voyage.
Le petit jeune homme, répondit Corentin, était incapable de se faire de ces provisions-là. C'est une précaution prise par l'abbé Carlos Herrera.
Corentin appuya son coude sur le bras du fauteuil où il s'était assis et se mit la tête dans la main en réfléchissant.
De l'argent ? « Cet homme en a plus que nous n'en avons, » dit-il. « Esther Gobseck lui a servi d'asticot pour pêcher près de 2 millions dans cet étang à pièces d'or appelé Nucingen. « Messieurs, faites-moi donner plein pouvoir par qui de droit, je vous débarrasse de cet homme. »«
Et des lettres ?» demanda le duc de Grandlieu à Corentin.
« Écoutez, messieurs, » reprit Corentin en se levant et montrant sa figure de fouine en état d'ébullition. Il enfonça ses mains dans les goussets de son pantalon de molleton noir à pied. Ce grand acteur du drame historique de notre temps avait passé seulement un gilet et une redingote. Il n'avait pas quitté son pantalon du matin, tant il savait combien les grands sont reconnaissants de la promptitude en certaines occurrences. Il se promena familièrement dans le cabinet en discutant à haute voix, comme s'il était seul.
« C'est un forçat !» On peut le jeter sans procès, au secret, à Bicêtre, sans communication possible, et l'y laisser crever. Mais il peut avoir donné des instructions à ses affidés en prévoyant ce cas-là.
Mais il a été mis au secret, dit le duc de Grandlieu, sur le champ, après avoir été saisi chez cette fille à l'improviste.
Est-ce qu'il y a des secrets pour ce gaillard-là ? Répondit Corentin. Il est aussi fort que moi.
« Que faire ?» se dirent par un regard les deux ducs.
« Nous pouvons réintégrer le drôle au bagne immédiatement. À Rochefort, il y sera mort dans 6 mois. »«
Oh, sans crime » dit-il en répondant à un geste du duc de Grandlieu.
« Que voulez-vous ? Un forçat ne tient pas plus de 6 mois à un été chaud quand on l'oblige à travailler réellement au milieu des miasmes de la Charente. Mais ceci n'est bon que si notre homme n'a pas pris des précautions pour ses lettres. » Si le drôle s'est méfié de ses adversaires, et c'est probable, il faut découvrir quelles sont ses précautions. Si le détenteur des lettres est pauvre, il est corruptible. Il s'agit donc de faire jaser Jacques Collin. Quel duel ! J'y serais vaincu. Ce qui vaudrait mieux, ce serait d'acheter ses lettres par d'autres lettres. Des lettres de grâce, et me donner cet homme dans ma boutique. Jacques Collin est le seul homme assez capable pour me succéder. Ce pauvre Contenson et ce cher Peyrade étant morts. Jacques Collin m'a tué ces deux incomparables espions comme pour se faire une place. Il faut, vous le voyez, messieurs, me donner carte blanche. Jacques Collin est à la conciergerie. Je vais aller voir M. de Granville à son parquet. Envoyez donc là quelques personnes de confiance qui me rejoignent. Car il me faut soit une lettre à montrer à M. de Granville, qui ne sait rien de moi, lettre que je rendrai d'ailleurs au président du conseil, soit un introducteur très imposant. Vous avez une demi-heure, car il me faut une demi-heure environ pour m'habiller, c'est-à-dire pour devenir ce que je dois être aux yeux de monsieur le procureur général. « Monsieur, dit le duc de Chaulieu, je connais votre profonde habileté. Je ne vous demande qu'un oui ou un non. Répondez-vous du succès ?»« Oui, avec l'omnipotence et avec votre parole de ne jamais me voir questionner à ce sujet. Mon plan est fait. » Cette réponse sinistre occasionna chez les deux grands seigneurs un léger frisson. « Allez, monsieur, dit le duc de Chaulieu, vous porterez cette affaire dans les comptes de celle dont vous êtes habituellement chargé. » Corentin salua les deux grands seigneurs et partit. Henri de Lenoncourt, pour qui Ferdinand de Grandlieu avait fait atteler une voiture, se rendit aussitôt chez le roi qu'il pouvait voir en tout temps par le privilège de sa charge. Ainsi, les divers intérêts noués ensemble, en bas et en haut de la société, devaient se rencontrer tous dans le cabinet du procureur général, amenés tous par la nécessité, représentée par trois hommes, la justice par M. de Granville, la famille par Corentin, devant ce terrible adversaire, Jacques Collin, qui configurait le mal social dans sa sauvage énergie. Quel duel que celui de la justice et de l'arbitraire, réunis contre le bagne et sa ruse. Le bagne, ce symbole de l'audace qui supprime le calcul et la réflexion, à qui tous les moyens sont bons, qui n'a pas l'hypocrisie de l'arbitraire, qui symbolise hideusement l'intérêt du ventre affamé, la sanglante, la rapide protestation de la faim. N'était-ce pas l'attaque et la défense, le vol et la propriété, la question terrible de l'état social et de l'état naturel, vidée dans le plus étroit espace possible? Enfin, c'était une terrible, une vivante image de ces compromis antisociaux que font les trop faibles représentants du pouvoir avec de sauvages émeutiers. Lorsqu'on annonça M. Camusot au procureur général, il fit un signe pour qu'on le laissât entrer. M. de Granville, qui pressentait cette visite, voulut s'entendre avec le juge sur la manière de terminer l'affaire Lucien. La conclusion ne pouvait plus être celle qu'il avait trouvée de concert avec Camusot la veille, avant la mort du pauvre poète. « Asseyez-vous, M. Camusot, dit M. de Granville en tombant sur son fauteuil. Le magistrat, seul avec le juge, laissa voir l'accablement dans lequel il se trouvait. Camusot regarda M. de Granville et aperçut sur ce visage si ferme une pâleur presque livide et une fatigue suprême, une prostration complète qui dénotait des souffrances plus cruelles peut-être que celles du condamné à mort à qui le greffier avait annoncé le rejet de son pourvoi en cassation. Et cependant, cette lecture, dans les usages de la justice, veut dire « Préparez-vous, voici vos derniers moments. » « Je reviendrai, monsieur le comte, dit Camusot, quoique l'affaire est urgente. »« Restez, répondit le procureur général avec dignité. Les vrais magistrats, monsieur, doivent accepter leurs angoisses et savoir les cacher. J'ai eu tort si vous vous êtes aperçu de quelques troubles en moi. » Camusot fit un geste. « Dieu veuille que vous les ignoriez, monsieur Camusot, ces extrêmes nécessités de notre vie. On succomberait à moins. » Je viens de passer la nuit auprès d'un de mes plus intimes amis. Je n'ai que deux amis, c'est le comte Octave de Beauvent et le comte de Sérisy. Nous sommes restés, monsieur de Sérisy, le comte Octave et moi, depuis 6 heures hier au soir jusqu'à 6 heures ce matin, allant à tour de rôle du salon au lit de madame de Sérisy, en craignant chaque fois de la trouver morte ou pour jamais folle. Desplein, Bianchon, Sinard n'ont pas quitté la chambre avec deux gardes-malades. Le comte adore sa femme. Pensez à la nuit que je viens d'avoir entre une femme folle d'amour et mon ami fou de désespoir. Un homme d'État n'est pas désespéré comme un imbécile. Sérisy, calme comme sur son siège au Conseil d'État, se tordait sur un fauteuil pour nous offrir un visage tranquille. Et la sueur couronnait ce front, incliné par tant de travaux. J'ai dormi de 5 à 7 heures et demie, vaincu par le sommeil, et je devais être ici à 8 heures et demie pour ordonner une exécution. Croyez-moi, monsieur Camusot, lorsqu'un magistrat a roulé durant toute une nuit dans les abîmes de la douleur, en sentant la main de Dieu appesantie sur les choses humaines et frappant en plein sur de nobles cœurs, il lui est bien difficile de s'asseoir là, devant son bureau, et de dire froidement « Faites tomber une tête à 4 heures, anéantissez une créature de Dieu pleine de vie, de force, de santé. Et cependant, tel est mon devoir. Abîmé de douleur, je dois donner l'ordre de dresser l'échafaud. » Le condamné ne sait pas que le magistrat éprouve des angoisses égales aux siennes. En ce moment, liés l'un à l'autre par une feuille de papier, moi, la société qui se venge, lui, le crime à expier, nous sommes le même devoir à deux faces, deux existences cousues pour un instant par le couteau de la loi. Ces douleurs si profondes du magistrat, qui les plaint, qui les console? Notre gloire est de les enterrer au fond de nos cœurs. Le prêtre, avec sa vie offerte à Dieu, le soldat et ses 1000 morts données au pays, me semble plus heureux que le magistrat avec ses doutes, ses craintes, sa terrible responsabilité. Vous savez qui l'on doit exécuter ? Continua le procureur général. Un jeune homme de 27 ans, beau comme notre mort d'hier, blond comme lui, dont nous avons obtenu la tête contre notre attente. Car il n'y avait à sa charge que les preuves du recel. Condamné, ce garçon n'a pas avoué. Il résiste depuis 70 jours à toutes les épreuves, en se disant toujours innocent. Depuis 2 mois, j'ai 2 têtes sur les épaules. Oh, je paierai son aveu d'un an de ma vie, car il faut rassurer les jurés. Jugez quel coup porter à la justice si quelque jour on découvrait que le crime pour lequel il va mourir a été commis par un autre. À Paris, tout prend une gravité terrible, les plus petits incidents judiciaires deviennent politiques. Le jury, cette institution que les législateurs révolutionnaires ont crue si forte, est un élément de ruine sociale. Car elle manque à sa mission, elle ne protège pas suffisamment la société. Le jury joue avec ses fonctions. Les jurés se divisent en 2 camps, dont l'un ne veut plus de la peine de mort, et il en résulte un renversement total de l'égalité devant la loi. Tel crime horrible, le parricide, obtient dans un département un verdict de non-culpabilité, tandis que dans tel autre, un crime ordinaire, pour ainsi dire, est puni de mort. Que serait-ce si, dans notre ressort, à Paris, on exécutait un innocent ? C'est un forçat évadé, fit observer timidement M. Camusot. Il deviendrait, entre les mains de l'opposition et de la presse, un agneau pascal, s'écria M. de Granville. Et l'opposition aurait beau jeu pour le savonner, car c'est un Corse fanatique des idées de son pays. Ses assassinats sont les effets de la vendetta. Dans cette île, on tue son ennemi, et l'on se croit, et l'on est cru, très honnête homme. Ah, les vrais magistrats sont bien malheureux. Tenez, ils devraient vivre séparés de toute société, comme jadis les pontifes. Le monde ne les verrait que sortant de leurs cellules à des heures fixes, graves, vieux, vénérables, jugeant à la manière des grands prêtres dans les sociétés antiques, qui réunissaient en eux le pouvoir judiciaire et le pouvoir sacerdotal. On ne nous trouverait que sur nos sièges. On nous voit aujourd'hui souffrant ou nous amusant comme les autres. On nous voit dans les salons, en famille, citoyens, ayant des passions, et nous pouvons être grotesques au lieu d'être terribles. Ce cri suprême, scandé par des repos et des interjections, accompagné de gestes qui le rendaient d'une éloquence difficilement traduite sur le papier, fit frissonner Camusot. Moi, monsieur, dit Camusot, j'ai commencé hier aussi l'apprentissage des souffrances de notre état. J'ai failli mourir de la mort de ce jeune homme. Il n'avait pas compris ma partialité, le malheureux s'est enferré lui-même. Et il fallait ne pas l'interroger, s'écria M. de Granville. Il est si facile de rendre service par une abstention. Et la loi, répondit Camusot. Il était arrêté depuis 2 jours. Le malheur est consommé, reprit le procureur général.
J'ai réparé de mon mieux ce qui, certes, est irréparable. Ma voiture et mes gens sont au convoi de ce pauvre faible poète. Sérisy a fait comme moi, bien plus, il accepte la charge que lui a donnée ce malheureux jeune homme, il sera son exécuteur testamentaire. Il a obtenu de sa femme, par cette promesse, un regard où luisait le bon sens. Enfin, le comte Octave assiste en personne à ses funérailles. Eh bien, monsieur le comte, dit Camusot, achevons notre ouvrage. Il nous reste un prévenu bien dangereux. C'est, vous le savez aussi bien que moi, Jacques Collin. Ce misérable sera reconnu pour ce qu'il est. Nous sommes perdus, s'écria monsieur de Granville. Il est en ce moment auprès de votre condamné à mort, qui fut jadis au bagne pour lui ce que Lucien était à Paris, son protégé. Bibi Lupin s'est déguisé en gendarme pour assister à l'entrevue. De quoi se mêle la police judiciaire ? Dit le procureur général. Elle ne doit agir que par mes ordres. Toute la conciergerie saura que nous tenons Jacques Collin. Eh bien, je viens vous dire que ce grand et audacieux criminel doit posséder les lettres les plus dangereuses de la correspondance de Madame de Sérisy, de la duchesse de Maufrigneuse et de Mademoiselle Clotilde de Grandlieu. Êtes-vous sûr de cela ? Demanda M. de Granville en laissant voir sur sa figure une douloureuse surprise. Jugez, monsieur le comte, si j'ai raison de craindre ce malheur. Quand j'ai développé la liasse des lettres saisies chez cet infortuné jeune homme, Jacques Collin y a jeté un coup d'œil incisif et a laissé échapper un sourire de satisfaction à la signification duquel un juge d'instruction ne pouvait pas se tromper. Un scélérat aussi profond que Jacques Collin se garde bien de lâcher de pareilles armes. Que dites-vous de ces documents entre les mains d'un défenseur que le drôle choisira parmi les ennemis du gouvernement et de l'aristocratie? Ma femme, pour laquelle la duchesse de Maufrigneuse a des bontés, est allée la prévenir et dans ce moment, elles doivent être chez les Grandlieu à tenir conseil. Le procès de cet homme est impossible, s'écria le procureur général en se levant et parcourant son cabinet à grands pas. Il aura mis les pièces en lieu de sûreté. Je sais où, dit Camusot. Par ce seul mot, le juge d'instruction effaça toutes les préventions que le procureur général avait conçues contre lui. Voyons, dit M. de Granville en s'asseyant. En venant de chez moi au palais, j'ai bien profondément réfléchi à cette désolante affaire. Jacques Collin a une tante naturelle et non artificielle, une femme sur le compte de laquelle la police politique a fait passer une note à la préfecture. Il est l'élève et le dieu de cette femme, la sœur de son père, elle se nomme Jacqueline Collin. Cette drôlesse a un établissement de marchand de la toilette et, à l'aide des relations qu'elle s'est créées par ce commerce, elle pénètre bien des secrets de famille. Si Jacques Collin a confié la garde de ses papiers sauveurs pour lui à quelqu'un, c'est à cette créature. Arrêtons-la. Le procureur général jeta sur Camusot un fin regard qui voulait dire « Cet homme n'est pas si sot que je le croyais hier. Seulement, il est jeune encore, il ne sait pas manœuvrer les guides de la justice. » Mais, dit Camusot en continuant, « Pour réussir, il faut changer toutes les mesures que nous avons prises hier, et je venais vous demander vos conseils, vos ordres. » Le procureur général prit son couteau à papier et en frappa doucement le bord de la table par un de ces gestes familiers à tous les penseurs quand ils s'abandonnent entièrement à la réflexion. « Trois grandes familles en péril » s'écria-t-il. « Il ne faut pas faire un seul pas de clerc. Vous avez raison, avant tout, suivant l'axiome de Fouché, arrêtons. Il faut réintégrer au secret à l'instant Jacques Collin. Nous avouons ainsi le forçat, c'est perdre la mémoire de Lucien. Quelle affreuse affaire, dit M. de Granville, tout est en danger. En ce moment, le directeur de la conciergerie entra, non sans avoir frappé. Mais un cabinet comme celui du procureur général est si bien gardé que les familiers du parquet peuvent seuls frapper à la porte. Monsieur le comte, dit M. Gault. « Le prévenu, qui porte le nom de Carlos Herrera, demande à vous parler. » « A-t-il communiqué avec quelqu'un ? » demanda le procureur général. « Avec les détenus, car il est au préau depuis 7h30 environ. Il a vu le condamné à mort qui paraît avoir causé avec lui. »
M. de Granville, sur un mot de M. Camusot, qui lui revint comme un trait de lumière, aperçut tout le parti qu'on pouvait tirer pour obtenir la remise des lettres d'un aveu de l'intimité de Jacques Collin avec Théodore Calvi. Heureux d'avoir une raison pour remettre l'exécution, le procureur général appela par un geste M. Gault près de lui. « Mon intention, lui dit-il, est de remettre à demain l'exécution. Mais qu'on ne soupçonne pas ce retard à la conciergerie. Silence absolu. Que l'exécuteur paraisse aller surveiller les apprêts. Envoyez ici, sous bonne garde, ce prêtre espagnol. Il nous est réclamé par l'ambassade d'Espagne. Les gendarmes amèneront le sieur Carlos par votre escalier de communication pour qu'il ne puisse voir personne. Prévenez ces hommes afin qu'ils se mettent deux à le tenir, chacun par un bras, et qu'on ne le quitte qu'à la porte de mon cabinet. Êtes-vous bien sûr, monsieur Gault, que ce dangereux étranger n'a pu communiquer qu'avec les détenus ? Ah ! Au moment où il est sorti de la chambre du condamné à mort, il s'est présenté pour le voir une dame. » Ici, les deux magistrats échangèrent un regard, et quel regard !